Lorsqu'enfin Samsa eut assouvi sa faim et qu'il s'arrêta pour reprendre son souffle, il ne restait pratiquement rien de comestible sur la table. Celle-ci offrait un spectacle désolant. On aurait pu croire qu'une volée de corbeaux avait fait irruption par une fenêtre ouverte et qu'ils s'étaient disputés la pitance à qui mieux avant de s'en aller précipitamment. Si Samsa avait eu moins de nourriture à sa disposition, il aurait sans doute fait un sort à ses fleurs tant sa faim semblait impossible à apaiser. Pendant un long moment ensuite, il resta assis sur sa chaise, hébété. Les mains sur la table, il respirait lentement, les yeux mi-clos, et contemplait le vase de lys, posé au centre de la table. Comme la marée qui gonfle et remonte sur le rivage, il fut lentement envahi par un sentiment de plénitude. Il avait la sensation que sa caverne intérieure s'était peu à peu comblée, et que le royaume du vide s'était resserré. Après quoi, il saisit un pot métallique et versa du café dans une tasse en porcelaine blanche. L'arôme puissant du café fit surgir en lui un souvenir. Ce n'était pas quelque chose qui lui revenait à la mémoire directement, mais plutôt de façon oblique, en remontant par étapes. Il avait le sentiment étrange que le temps s'était scindé en deux, et que ce qu'il expérimentait à présent était un souvenir du futur. Comme si l'expérience et le souvenir allaient et venaient en circulant sur un même cycle clos. Il ajouta une bonne quantité de crème dans son café, remua le tout avec un doigt et le but. Le café avait légèrement refroidi, mais conservait une certaine chaleur. Il garda chaque gorgée dans la bouche un certain temps, avant d'avaler prudemment et de laisser le liquide s'écouler dans sa gorge. Il eut l'impression qu'absorber cette boisson le calmait un tant soit peu. Brusquement, il eut froid. Il se mit à trembler de tout son corps. Jusqu'alors, sa faim avait été tellement violente qu'elle avait sans doute masqué toute autre sensation. Mais à présent qu'il était repu, il ressentait distinctement la fraîcheur matinale. Tous les poils étaient éteints. En outre, il était complètement nu. Il n'était même pas chaussé. Samsa se rendait bien compte qu'il devait trouver quelque chose pour se couvrir. Il avait vraiment trop froid ainsi. Et puis se présenter nu devant autrui n'était évidemment pas convenable. Quelqu'un pouvait frapper à la porte, ou encore les convives, attablés devant leur petit déjeuner peu auparavant, pouvaient revenir. S'il le découvrait dans cet état, il s'exposait à des problèmes. Tout cela, il le savait parfaitement. Non pas parce qu'il l'aurait conjecturé ou compris d'une manière intellectuelle, non, il le savait simplement. Samsa ignorait d'où lui venait cette connaissance. Peut-être faisait-elle partie des souvenirs en circulation qu'il avait saisis. Il se leva, quitta la salle à manger et se dirigea vers le hall d'entrée. Sa démarche était encore gauche, mais en tout cas il était à présent capable d'avancer sur ses deux jambes, sans s'appuyer quelque part. Dans le hall, il y avait un porte-parapluie en fer forgé, dans lequel étaient déposés des parapluies, mais aussi des cannes. Il en choisit une noire, en bois de chêne, pour s'aider dans ses déambulations. Le simple fait de saisir sa poignée solide l'apaisa et l'encouragea. Et puis, il avait à présent une arme pour se défendre en cas d'attaque d'oiseau. Il s'approcha de la fenêtre et regarda un moment le paysage extérieur, entre les rideaux blancs de dentelle. La maison donnait sur une rue. Ce n'était pas une voie très large. Elle était étrangement vide et les piétons étaient très rares. Néanmoins, les hommes ou les femmes qui l'arpentaient parfois d'un pas rapide étaient tous parfaitement vêtus. Leurs habits étaient de couleurs et de styles variés. Il y avait surtout des hommes, mais il vit également une femme ou deux. Leurs costumes étaient différents. Tous avaient aux pieds des chaussures de cuir solide. Quelques-uns portaient des bottes bien cirées, très brillantes. Sur les pavés sonores, leurs semelles claquaient à chacun de leurs pas vifs. Tout le monde était coiffé d'un chapeau. Tous semblaient trouver normal de marcher sur deux jambes et de se couvrir le sexe. Samsa compara son image reflétée dans le miroir en pied, qui se trouvait dans le hall, avec les passants de la rue. L'homme qu'il voyait dans le miroir lui parut frêle et misérable. Son ventre était taché de sauce, des miettes de pain s'étaient accrochées à ses poils pubiens, comme des bouts de coton. Il se mit à se nettoyer et à enlever toutes ses saletés avec les mains. « J'ai besoin de vêtements », se dit-il encore une fois. Il jeta de nouveau un œil sur la rue, cherchant à percevoir des oiseaux. Non, aucun volatile en vue. Au rez-de-chaussée de cette maison, il y avait le hall d'entrée, une cuisine, une chambre et une salle à manger. Il ne trouverait de vêtements nulle part dans ces pièces. C'était sans doute au premier étage que les habitants des lieux se changeaient. Il découvrirait certainement là les habits dont il avait besoin. Il résolut d'affronter l'escalier encore une fois. Mais il eut la surprise de s'apercevoir que la montée était bien plus aisée que ne l'avait été la descente. En s'agrippant à la rampe, il fut capable d'escalader les 17 marches à une allure beaucoup plus rapide, sans éprouver de peur ni de douleur, simplement en s'arrêtant parfois, mais pas très longtemps, pour reprendre son souffle. La chance était sans doute de son côté, car aucune des portes n'était fermée à clé. Elles s'ouvrirent facilement, dès qu'il eut tourné la poignée vers la droite et poussé. En tout, il y avait 4 chambres, et à l'exception de la pièce glaciale au plancher nu dans laquelle il s'était éveillé, tout était confortablement meublé. Dans chacune d'elles, il y avait un lit garni de literies propres, une commode, une table à écrire, une lampe et un tapis orné de motifs délicats. Tout était en ordre. Le ménage était bien fait. Des livres étaient joliment alignés sur des étagères. Les murs étaient décorés de tableaux, représentant un paysage. Sur toutes ces peintures à l'huile, on voyait la mer et des falaises pâles. Des nuages blancs, dont les formes évoquaient des pâtisseries, flottaient dans un ciel bleu sombre. Dans chaque pièce était posé un vase en verre, empli de fleurs fraîches et éclatantes. Il ne vit nulle part de fenêtre condamnée par des grossières planches clouées. Au contraire, les fenêtres étaient habillées de rideaux de dentelle, au travers desquels la lumière du soleil se déversait, telle une bénédiction. Les lits montraient que quelqu'un avait dormi dedans peu de temps auparavant. Samsa distinguait nettement l'empreinte d'une tête sur l'oreiller. Il découvrit une robe de chambre à sa taille dans le placard de la pièce la plus vaste. C'était un vêtement qu'il devrait arriver à enfiler. Il n'avait pas la moindre idée de la manière de s'y prendre avec les autres. Comment les mettre? Comment les porter? Il lui paraissait trop complexe. Ils étaient équipés de trop de boutons, et il ne voyait pas comment distinguer l'avant de l'arrière, le haut du bas. Lesquels étaient des sous-vêtements? Lesquels des habits de dessus? Il avait décidément trop de choses à étudier sur cette question. Alors que cette robe de chambre était simple et pratique, à peu près dépourvue d'ornements, l'étoffe légère et souple était douce à sa peau. La couleur était d'un bleu pâle. Il réussit même à dénicher une paire de mules assorties. Il enveloppa sa nudité dans la robe de chambre, et après un certain nombre de tentatives et d'échecs, il parvint à nouer la ceinture autour de ses hanches. À présent vêtu de sa robe de chambre et chaussé de ses mules, il se contempla dans un miroir. Il valait certainement mieux être ainsi habillé que de déambuler nu. Plus tard, en observant attentivement les autres hommes autour de lui, il apprendrait comment se vêtir correctement. En attendant, il n'avait que cette robe de chambre à sa disposition. Elle n'était d'ailleurs pas aussi chaude qu'il l'avait espéré, mais du moment qu'il restait dans la maison, il serait néanmoins protégé du froid. Et surtout, il n'avait plus à s'inquiéter de ce que son épiderme tendre subisse une attaque d'oiseaux. Lorsqu'on sonna à la porte d'entrée, Samsa somnolait dans la chambre la plus grande et le lit le plus large de la maison. Il était lové bien au chaud sous l'édredon en duvet, comme s'il dormait confortablement à l'intérieur d'un œuf. Il rêvait. Un rêve dont il ne pouvait à présent se souvenir dans le détail, mais qui avait été agréable et réconfortant. Cependant, la sonnette retentissait dans toute la maison, le ramenant à la froide réalité. Il s'extirpa du lit, noua soigneusement la ceinture de sa robe de chambre, enfila ses mules bleu foncé, empoigna sa canne noire et, une main sur la rampe, descendit lentement l'escalier. L'opération fut cette fois bien plus facile qu'au tout début. Néanmoins, il risquait toujours de tomber. Il ne pouvait se permettre de relâcher son attention. Gardant les yeux fixés sur ses pieds, il descendit une marche après l'autre, avec bien des précautions, alors que la sonnette ne cessait de faire entendre son grelottement discordant. Le visiteur qui appuyait sur le bouton était sans doute une personne impatiente et entêtée. La canne dans la main gauche, Samsa s'approcha de la porte d'entrée. Il tourna la poignée vers la droite, tira, et la porte s'ouvrit. Une petite femme se tenait là, une toute petite femme. Il était même incroyable qu'elle ait réussi à atteindre la sonnette. Quand Samsa fut un peu plus près, il comprit pourtant que ce qui posait problème n'était pas sa taille, mais son dos, penché en avant, dans une courbure permanente. Cette particularité faisait paraître la femme petite, alors qu'en fait elle avait une taille normale. Elle avait noué ses cheveux en arrière, à l'aide d'un élastique, afin qu'il ne lui tombe pas sur le visage. Sa chevelure abondante était d'une teinte châtain foncé. Elle portait une veste de tweed très usagée et une jupe large qui lui couvrait les chevilles. Une écharpe rayée en coton autour du cou, pas de chapeau, de hautes chaussures à lacets. Elle semblait avoir la petite vingtaine. Il restait en elle quelque chose d'enfantin. Elle avait de grands yeux, un petit nez, et ses lèvres étaient légèrement courbées d'un côté, comme une mince lune. Des sourcils épais et droits lui donnaient un air quelque peu soupçonneux. « C'est bien ici la maison de M. Samsa ?» demanda la petite femme, relevant le cou pour le regarder. Là-dessus, son corps entier se tordit sauvagement, de la façon dont la terre s'altère et se dénature sous l'action d'un violent tremblement de terre. Un peu hésitant au début, Samsa se força cependant à répondre « Oui, puisqu'il était Grégor Samsa, cette maison devait vraisemblablement être la sienne. » Il ne voyait aucun inconvénient à répondre de la sorte. Cependant, la femme ne parut pas très satisfaite de sa réponse. Elle grimaça légèrement. Peut-être avait-elle senti l'hésitation dans sa façon de parler. « C'est vraiment la maison de M. Samsa ici ?» répéta-t-elle d'une voix aiguë. On aurait dit une gardienne expérimentée, soumettant à un interrogatoire serré un visiteur à l'allure misérable. « Je suis Grégor Samsa, » répondit Samsa avec autant de décontraction qu'il le put. C'était un fait indéniable. « Bon, » fit la femme. Elle prit alors un grand sac noir en tissu, posé à ses pieds, qui semblait très lourd. Sans doute avait-il été utilisé depuis bien longtemps, car il était élimé ici ou là. Il avait dû connaître plusieurs propriétaires. « Eh bien, allons-y. » Sans attendre de réponse, la femme pénétra dans la maison. Samsa referma la porte. La femme resta plantée là, son regard naviguant de haut en bas, examinant d'un air suspicieux sa robe de chambre et ses mules. Puis elle déclara d'une voix très froide « J'ai comme l'impression que je vous ai réveillé. » « Cela n'a aucune importance, » répondit Samsa. Il sentait à son expression hargneuse que son allure ne convenait pas aux circonstances. « Je vous prie de m'excuser pour ma tenue, mais il y a à cela toutes sortes de raisons qui font que... » La femme resta la bouche serrée, sans lui accorder de réponse. « Alors ?» lança-t-elle seulement. « Alors ?» répéta Samsa. « Alors où se trouve la serrure qui pose problème ?»«
La serrure ?»«
La serrure cassée, » dit la femme. Elle ne cherchait même plus à dissimuler son irritation. « Vous nous avez appelé pour nous demander de venir la réparer. »«
Ah, la serrure cassée, » fit Samsa. Il tenta désespérément de rassembler ses pensées, mais à peine se concentrait-il sur un point que la colonne noire de moustiques ressurgissait au fond de son crâne. entendu de spécial à propos d'une serrure, dit-il. Mais je suppose que le problème se situe au premier étage, sur l'une des portes. La femme le contempla, le visage plissé d'agacement. « Vous supposez ? » répéta-t-elle. Sa voix était encore plus glaciale. Un de ses sourcils s'était relevé en accent circonflexe. « L'une des portes ?» Samsa eut conscience qu'il s'empourprait. Le fait d'ignorer absolument tout de cette serrure cassée le mettait dans le plus extrême embarras. Il tenta de s'éclaircir la voix, mais ne put prononcer la moindre parole. « Monsieur Samsa, vos parents sont-ils là? Je crois que j'aimerais mieux parler avec eux. » « Je pense qu'ils sont sortis. Ils avaient quelque chose à faire, » répondit Samsa. « Ils sont sortis ? » s'écria-t-elle stupéfaite. « Qu'avaient-ils donc à faire au milieu de tout ça ?»« Je ne sais rien du tout. Ce matin, quand je me suis réveillé, il n'y avait personne, » dit Samsa. « Eh bien, dites donc. » La jeune femme poussa un long soupir. « Nous leur avions pourtant dit que nous passerions à ce moment de la journée. » Je suis vraiment désolé. » La femme resta un moment la bouche serrée, puis lentement, son sourcil relevé redescendit, et elle observa la canne noire que tenait Samsa. « Vous avez mal aux jambes, monsieur Grégor ?»« Un peu, oui, » répondit Samsa de façon ambiguë. De nouveau, la femme fut agitée de brusques contractions. Samsa n'avait pas la moindre idée de ce que signifiaient ces mouvements, ni dans quelle intention ils étaient accomplis. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher d'être instinctivement attiré par leur déroulement complexe. « Eh bien, tant pis, » déclara alors la jeune femme d'un ton résigné. « Allons voir au premier étage les serrures des portes. Quand je pense que j'ai passé le pont et que j'ai traversé la ville entière avec tout ce qui se passe de terrible pour venir jusqu'ici, j'ai même risqué ma vie. Mais maintenant, ça n'aurait aucun sens de dire « Ah, il n'y a personne, alors je reviendrai plus tard, non ?» Tout ce qui se passe de terrible, Samsa ne comprenait rien de ce à quoi elle faisait allusion. Qu'arrivait-il de si affreux? Mais il ne posa aucune question. Mieux valait ne pas exposer son ignorance encore davantage.